France Inter.
It's morning edition from NPR News.
Ben City Sandin the House.
Haliam Radio Rosana Piparis.
Produce gente en la radio.
Faut pas changer de radio.
France Inter. Le 18-20. Christelle Rebien.
Un jour dans le monde, un jour dans l'histoire des indépendances africaines.
Le grand jour, tant souhaité, est enfin arrivé. Au nom du peuple togolais, je proclame solennellement l'indépendance du Togo, notre patrie.
Cette voix, c'est celle de Sylvanus Olympio, premier président en 1960 de la toute jeune République du Togo. Il sera assassiné 3 ans plus tard. Alors ce soir, on revisite l'histoire de l'Afrique et de ses indépendances. Pour comprendre le présent, eh bien, il faut plonger dans le passé. Et c'est un peu le mantra de notre invité. Chaque matin à 8h20 sur France Inter dans Géopolitique, il met en perspective les turpitudes du présent pour nous expliquer ce qui se joue. Et il vient de sortir un livre passionnant, Décolonisation africaine, tiré de son podcast. Bonsoir Pierre Aski.
Bonsoir Christelle.
On est ravis de vous recevoir. Merci. Alors de la Guinée à l'Éthiopie, du Congo à l'Afrique du Sud, vous nous faites découvrir et redécouvrir les personnages qui ont mené les pays africains à l'indépendance. 13 histoires, 13 parcours, de Sékou Touré à Patrice Lumumba, en passant par Léopold Sédar Senghor et bien sûr Nelson Mandela. D'abord, pourquoi avez-vous choisi de raconter ces pères de l'indépendance ?
Parce que c'était un bon moyen de raconter une page d'histoire très longue, parce qu'ils ont une vie avant d'être président de leur pays. Et ça permet de raconter la colonisation, la conquête de l'indépendance et ce qui s'est passé après. Mmh. Voilà, ces pères de la nation ont incarné un moment d'histoire très particulier et qui tend à être oublié. Et moi, c'est ça qui m'a frappé, c'est à quel point ces noms, à part les plus connus, sont plus ou moins oubliés, alors que cette histoire continue à peser sur notre actualité et sur les relations de la France avec son ancien empire.
Mmh. Alors, avant d'entrer dans le détail, un mot sur l'Algérie d'abord, qui ne figure pas dans votre livre, parce qu'il faudrait lui en consacrer
un
à part entière.
Absolument.
En fait, hein. Nos deux pays sont passés à un état de tension inédit depuis l'indépendance, entre expulsion, retour de personnes placées sous OQTF. Les mots se font plus durs de part et d'autre de la Méditerranée. Est-ce une nouvelle preuve d'une décolonisation au fond qui ne passe pas ?
Alors je pense que ça c'est une règle absolue, la décolonisation ne passe pas. Emmanuel Macron, lorsqu'il est arrivé à l'Élysée, a essayé de jouer la carte générationnelle en disant « moi j'étais pas né au moment de la décolonisation ou de la colonisation et donc tournons la page ». Et ça ne marche pas parce qu'il est le chef d'un État qui a un héritage, un passé, une histoire et que cette histoire, on l'a pas soldée complètement. Alors avec l'Algérie, c'est évidemment un cas particulier parce qu'il y a eu d'abord c'était un département français, c'était pas juste une colonie, c'était une colonie de peuplement, donc avec une population importante venue de métropole. Et puis il y a eu cette longue guerre et on a toujours au pouvoir à Alger la génération de ceux qui ont conquis l'indépendance, qui ont mené cette guerre et qui sont des gens d'un certain âge à la tête d'un pays très jeune. Donc il y a à la fois le poids du passé et évidemment l'instrumentalisation politique parce que la question de la mémoire est toujours instrumentalisée.
Vous le disiez, au fond, nos deux pays sont encore étroitement mêlés. Il y a un héritage migratoire, des intérêts économiques stratégiques et on a l'impression qu'ils n'arrivent pas à se synchroniser. Pourquoi ? Parce que effectivement, comme vous le disiez, chacun est encore dans une problématique de politique intérieure.
Il y a des problématiques de politique intérieure fondamentales. En Algérie, évidemment, on a eu il y a quelques années cette contestation du pouvoir au moment de la nouvelle candidature de Bouteflika, le Hirak, le soulèvement de la population, qui s'est terminé un peu en eau de boudin avec le Covid, mais qui n'a rien réglé. Donc on a un pouvoir qui a un problème de légitimité et évidemment, blâmer l'ancienne puissance coloniale est toujours un bon moyen de souder la population. Et puis ici, on a un problème compliqué parce qu'il y a plus de 10% de la population française qui a un rapport avec l'Algérie. Que ce soit les descendants de pieds noirs, donc des Français d'Algérie, des descendants de harkis, ceux qui ont combattu avec la France, ou venus de l'immigration algérienne, ça représente beaucoup de gens. C'est la principale communauté ayant un lien avec un pays étranger. Et donc ça joue localement localement et ça joue nationalement. Et évidemment, aujourd'hui, on voit bien à quel point c'est instrumentalisé dans le discours politique intérieur français.
Bien, revenons à votre livre, Pierre Aski, Décolonisations africaines. En 20 ans à peine, finalement, le continent africain s'est émancipé des tutelles européennes qui duraient depuis des siècles. Le système colonial s'est au fond effondré un peu comme un château de cartes au début des années 60. Pourquoi ?
En fait, on n'a pas compris tout de suite à l'époque à quel point la Seconde Guerre mondiale avait changé la donne. On a demandé aux troupes coloniales, aux troupes issues des pays africains de participer à la libération de la France, à la lutte contre le nazisme qui était basé sur une hiérarchie raciale. Et une fois que la guerre était terminée, en gros, on a dit aux gens, vous rentrez chez vous et tout continue comme avant. Ça n'était pas possible. Et en particulier, on voit bien qu'il y a eu cette petite flamme qui s'est allumée à ce moment-là et qui a déclenché la décolonisation.
Mais tout est tombé très très vite.
Oui, alors il y a aussi ce qui s'est passé à l'étranger, hors du continent africain. On a eu l'indépendance de l'Inde, qui a été qui a eu un impact très fort. Il y a eu la défaite de Dien Bien Phu. Pendant la guerre d'Indochine, où tout d'un coup, les peuples colonisés d'Afrique ont vu qu'un autre peuple colonisé par la France pouvait remporter une victoire et faire partir la présence française. Donc tous ces événements accumulés ont conduit, dans des situations très différentes d'un pays à l'autre, mais à ce mouvement de décolonisation.
Alors, parmi les 13 pays dont vous nous racontez l'histoire, avec l'aide précieuse d'ailleurs de l'historien Pape Ndiaye...
Absolument, qui a écrit la préface.
Voilà, je vous ai demandé d'en choisir trois. Alors, on commence par le Congo, avec la figure de Patrice Lumumba. Vous mettez en exergue dans votre livre cette citation « Sans dignité, il n'y a pas de liberté ». Lumumba, il a mené le Congo belge à la liberté, il a aussi connu un destin tragique.
Oui, tout à fait. En fait, Lumumba reste aujourd'hui la figure absolue du martyr de la décolonisation, puisqu'il a été assassiné à peine 6 mois après l'indépendance du pays. Et il y a un événement qui est majeur dans cette histoire, c'est le jour de l'indépendance. Le roi des Belges est à Kinshasa, enfin Léopoldville à l'époque, qui deviendra Kinshasa. Il prononce un discours assez lénifiant et Lumumba lui répond. Et il lui répond en termes très durs, en rappelant tout ce qu'a été la colonisation dans le pays. Et Lumumba n'était pas prévu parmi les orateurs ce jour-là. Et on voit un moment le roi des Belges qui se penche vers le président du Congo, Kazavubu, et qui lui dit « mais c'était pas prévu ça ». Et le discours de Lumumba est tellement fort qu'il reste aujourd'hui extrêmement symbolique et reconnu par l'ensemble de la jeunesse africaine des décennies après.
Et pourquoi se retrouve-t-il assassiné aussi rapidement ?
Parce qu'il mis en cause les intérêts économiques et stratégiques de la Belgique et plus largement de l'Occident. Il faut se souvenir quand même que 1960, on est en pleine guerre froide. Donc, il y a cette obsession permanente du fait que tout affaiblissement de l'Occident entraînera un gain pour le bloc communiste. Et le Congo, ce sont des minerais, ça reste encore un sujet très chaud aujourd'hui, mais la grande crainte des Américains, de la CIA, qui joue un rôle clé dans l'assassinat de Lumumba, c'est que ces minerais tombent entre les mains du bloc communiste. Et Lumumba est perçu comme un fauteur de troubles, donc un potentiel allié des communistes.
Alors, il n'a pas de sépulture. Et l'histoire, on le sait, est toujours faite de petites histoires. J'aimerais bien que vous nous racontiez l'histoire de la dent de Patrice Lumumba.
Et en fait, c'est une histoire qui montre à quel point les pages d'histoire sont encore vivantes. Quand j'étais en train d'écrire le chapitre sur Lumumba, il y a eu tout d'un coup cet épisode de la dent. Je le résume.
Oui.
Lorsque Lumumba est assassiné, son corps est dissous dans un bac d'acide. Et un gendarme belge présent sur place a l'idée saugrenue de garder une dent de Lumumba comme trophée comme relique. Il rentre en Belgique avec cette dent et à sa mort, bien longtemps après, sa fille est embarrassée par cet héritage et elle le donne à l'État belge. Et c'est seulement il y a 3 ans ou 4 ans que l'État belge a décidé de rendre cette dent au Congo. Et lorsqu'elle est rentrée à Kinshasa, il y avait 200 000 personnes pour l'accueillir. C'est-à-dire que la seule chose qui rattache la population congolaise au corps de son grand martyr, c'est cette dent. Et cette dent a pris une valeur symbolique extrêmement forte. Et donc, voilà, c'était au moment où j'étais en train d'écrire sur une histoire qu'on pouvait penser terminée, froide, et tout d'un coup, on voit qu'elle ressurgit et qu'elle reste extrêmement vivante.
L'histoire n'est jamais très loin. Mmh. Autre pays, Pierre Aski, le Togo, qui fait sa déclaration d'indépendance le 27 avril 1960, presque en même temps que le Congo. Une dizaine de pays, d'ailleurs, cette année-là.
Oui, c'est une année incroyable.
Mais c'est incroyable. Alors, Sylvanus Olympio, premier président, parcours atypique, car il a travaillé dans une multinationale avant de s'engager en politique.
Oui, Sylvanus Olympio est diplômé de la London School of Economics, qui, à l'époque, on parle des années 20 et 30, est extrêmement rare. Et il est embauché par une multinationale qui prendra par la suite le nom d'Unilever. Il est même le patron d'une branche de cette multinationale en Afrique de l'Ouest. Et ensuite, il quitte le secteur privé pour rentrer en politique et il deviendra le premier président. C'est atypique parce que la plupart des autres dirigeants politiques ont un parcours classique d'engagement, souvent en passant par la case prison et la lutte contre le colonisateur. Et Olympio était obsédé par la gestion. Il voulait développer son pays.
Il voulait que le pays ait une bonne assise financière, qu'il ne soit pas endetté.
Exactement. Et c'est ce qui a provoqué sa mort, parce qu'il refusait qu'il y ait une armée. Il y avait que 300 soldats au Togo. Il ne voulait pas dépenser d'argent pour maintenir une armée. Et il s'est heurté à des anciens soldats de l'armée coloniale en Indochine et en Algérie qui ont demandé à être engagés, recrutés par l'armée togolaise. Et Olympio a refusé. C'est eux qui l'ont assassiné, visiblement instrumentalisé par Paris, qui n'aimait pas Olympio, parce qu'il était à la fois trop indépendant et attiré par le monde anglo-saxon.
Premier chef d'État africain à être assassiné chez lui.
Oui, absolument. Et d'ailleurs, c'était typique de ce personnage. Il y avait deux gardes devant sa maison qui étaient à peine protégés. Il s'est réfugié dans la maison voisine qui se trouvait être la résidence de l'ambassadeur américain. Et qu'il a été dénoncé et assassiné sur place.
Et le président actuel, ça c'est encore fou, est le fils de son assassin.
Exactement. C'est assez...
Ce sont des histoires extraordinaires, vous nous racontez, franchement, dans votre livre. Enfin, figure incontournable de l'Afrique, Nelson Mandela. Mais là, il ne s'agit pas de décolonisation, mais de lutte contre l'apartheid. C'est pas la même histoire.
C'est pas la même histoire, mais malgré tout, elle s'inscrit dans cette longue histoire, cette longue quête de la liberté en Afrique. Et évidemment, l'histoire de Mandela, elle a pour moi une signification particulière parce que j'étais en poste en Afrique du Sud à l'époque de l'apartheid.
Et vous l'avez vu.
Et je l'ai vu en prison. Il y a eu un seul voyage de presse dans la prison de Nelson Mandela. J'en faisais partie. C'était en 1977, donc c'était il y a fort longtemps.
À Robben Island.
Et à Robben Island, Mandela était furieux d'être exhibé aux journalistes. On n'avait pas le droit de lui parler. Et des années après, quand il a été libéré, je l'ai interviewé à Paris. Mm-hmm. Et je lui ai demandé s'il se souvenait de ce voyage. Et il m'a dit bien sûr, j'étais furieux parce qu'on m'exhibait devant les journalistes sans me demander mon avis. Et je lui ai dit que j'en faisais partie. Et là, il m'a pris dans ses bras en éclatant de rire. Parce que c'était, voilà, on avait un souvenir commun à Robben Island, ce qui ne devait pas lui arriver souvent avec des étrangers.
Alors, il prenait la désobéissance civile, condamné à la prison à vie. Il y a passé 27 ans, libéré en 90, avant de devenir chef d'État à 75 ans.
Moi, Nelson Rolihlahla Mandela, je jure solennellement d'être fidèle à la nouvelle République d'Afrique du Sud, avec l'aide de Dieu.
Voilà, c'est un extrait de votre podcast sur les décolonisations africaines, Pierre. C'était un moment d'histoire, mais quel est l'héritage de Mandela aujourd'hui ?
Alors, paradoxalement, Mandela est celui qui s'en sort le mieux de toute cette galaxie de présidents, dont beaucoup ont mal tourné, il faut bien le dire. Certains sont devenus d'abominables dictateurs, comme Robert Mugabe dans le Zimbabwe voisin. Et Mandela a fait exactement ce qu'il avait dit. Il a dit « j'assure la transition et ensuite je laisse la place aux générations d'après ». Le problème, c'est que les générations d'après ont raté cette gestion de l'essor de
l'Afrique
du Sud.
N'ont pas su prendre la relève.
Non, et le pays en subit encore le contre-coup aujourd'hui. Et des jeunes sud-africains reprochent aujourd'hui à Mandela d'avoir choisi le compromis, en disant « on aurait dû aller au bout de cette révolution et chasser les Blancs, reprendre l'économie, etc. » Il y a cette transformation de l'héritage, mais il faut bien le dire, Mandela est celui dont la réputation, l'auréole, reste intouchable partout dans le monde. Et c'est ça qui est extraordinaire.
Un dernier mot sur l'actualité, parce que j'aimerais juste qu'on évoque Madagascar rapidement. Emmanuel Macron, en visite sur place, annonce aujourd'hui la création d'une commission mixte franco-malgache d'historiens pour travailler sur l'insurrection de 1947 qui avait été réprimée violemment dans cette ancienne colonie par l'armée française. Ça veut dire qu'il y a encore beaucoup à faire.
Vous savez, dans sa préface, Pape Ndiaye dit qu'il faut regarder les fantômes de l'histoire dans les yeux. Je trouve que c'est une belle formule et c'est exactement ce qu'on fait. Alors, ces commissions d'historiens, c'est un artifice pour organiser la reconnaissance de ces crimes. Parce que, franchement, on sait déjà tout sur cette histoire, sur l'histoire de la...
Les archives ont été largement...
La répression de 1947 à Madagascar qui a fait des dizaines de milliers
mais
de morts.
Mais c'est symbolique.
Mais on passe par cette approche scientifique pour reconnaître des crimes qui auraient dû être reconnus depuis fort longtemps.
Merci Pierre Esqui. Je rappelle le titre de votre ouvrage « Décolonisations africaines » paru aux éditions Stock avec France Inter qui reprend votre podcast à réécouter bien sûr sur l'appli Radio France. Merci et à demain matin. 8h20.
Merci.
La suite ce soir, c'est le reportage d'un jour dans le monde au Tchad où de nombreux réfugiés du Soudan témoignent d'agressions sexuelles, véritable arme de guerre utilisée dans la guerre civile. Pour vous accompagner jusqu'à 19h, Corinne Audouin sous les radars.
On parlera d'un TikToker birman de 21 ans arrêté pour avoir semé la panique en annonçant faussement un nouveau séisme.
Claude Guibal, bonsoir.
Bonsoir. On ira voir pourquoi, 10 ans après son annexion, la Crimée est la ligne rouge des négociations de paix avec l'Ukraine.
Et ce sera Le Monde à 18h50. Enfin, la tech, la première. Avec vous, Stéphane Jourdain.
On plonge dans les coulisses des algorithmes qui régissent notre vie quotidienne.
À tout à l'heure. On s'arrête à Londres avec Hope Tala. Cette étudiante en littérature vient de sortir son premier album. Elle y chante l'amour, mais platonique. Voici une lettre à sa meilleure amie, Phoenix. Bon début de soirée sur Inter. Don't you apologize when you're right. You said straight spine. Take one step at a time. Just keep on breathing and you'll be fine. So I took a breath in and I let myself shout. Felt the air on my skin and let my hair down. I don't really know if I'll come back to this town. But at least I'm here right now. With my heart between your hands in Phoenix. Knew that I'd survive cause you made me believe it. When I'm under attack and my world feels like it's coming to an end. You say don't break, just bend. You say don't break, just bend. So if you free fall, can't help but hit the wall. It's not your curtain call. Swear there's so much more. So much that's wonderful. And I'll be by your side through it all. So just take a breath in. You can let yourself shout. Feel the air on your skin and let your hair down. I don't really know if we'll come back to this town. But at least we're here. With your heart between my hands in Phoenix. Knew that we'd survive cause you made me believe it. When you're under attack and your world feels like it's coming to an end, I'll say don't break, just with my heart in your hands spilling over and my head resting right on your shoulder. When I'm under attack and my world feels like it's you say don't pray, just pray. Le reportage d'un jour dans le monde nous emmène au Tchad, à l'ouest du Soudan, qui accueille des milliers de réfugiés. La guerre civile qui sévit depuis 2 ans entre les troupes du général Al-Bourhan au pouvoir depuis son coup d'État en 2021 et celle des forces de soutien rapide, la milice paramilitaire du général Daglo, a fait 150 000 morts, 13 millions de déplacés. Dans ce conflit particulièrement barbare, les violences sexuelles sont utilisées comme armes de guerre et dans l'État du Darfour occidental, les Nations Unies dénonce les exactions du FSR contre la communauté massalite non arabe, une communauté qu'a rencontré notre envoyé spécial à Adré, dans l'est du Tchad. Nadia Menmafoud raconte.
Assise par terre, sa fille de 8 mois sur les genoux, Sunda Khater Khamis a 29 ans. Les yeux plissés, presque fermés au milieu d'un visage marqué par les épreuves de ces 2 dernières années, elle nous raconte.
La guerre a détruit toutes nos maisons. Les gens jaouites sont entrés et ont tout chamboulé. Ils tuent et violent. On ne savait plus quoi faire ni où aller. Où que nous allions, ils étaient là, leurs armes braquées sur nous. Tout est parti en fumée. Ils nous ont étouffés, humiliés. Ils nous ont tués. Ils ont tué nos parents. On ne savait même plus quoi faire pour nous protéger. Au moment de l'attaque du village, on est sortis et on a fui. J'avais mes 2 enfants avec moi, l'un sur le dos et l'autre que je tenaient par la main. Les FSR nous ont vus, ils ont choisi des filles du groupe qu'ils ont pris avec eux. C'est là que j'attendais de partir avec mes enfants pour nous mettre à l'écart. Un homme est alors venu vers moi, il m'a demandé de me lever. J'ai refusé, mais il m'a menacé avec son arme. J'ai eu peur, je me suis levée pour le suivre. Ils m'ont violée et ils sont partis en me laissant sur place, comme ça. Je me suis reposée un peu, puis je me suis relevée pour retrouver mes enfants et nous avons repris la route.
Sunda et ses enfants ont quitté Al-Jenina, à l'ouest du Darfour. Pour arriver à Adré, à 20 kilomètres de chez eux, ils ont dû passer par plusieurs barrages contrôlés par les FSR.
Ils nous demandaient de vider toutes nos affaires pour nous fouiller, pour nous humilier. Ils nous demandaient d'enlever tous nos habits, puis nous laisser partir avant d'être arrêtés à nouveau un peu plus loin. On n'avait rien à boire, on a dû se contenter de ce qu'on trouvait dans les cours d'eau. On n'avait pas de quoi manger non plus.
Fatouma Abdallah Ibrahim a elle aussi été violée au Darfour.
J'ai été violée par 2 hommes. Ma mère était présente. Quand elle a commencé à me défendre, ils l'ont tuée.
C'était il y a 2 ans, mais la douleur est encore vive.
On m'a frappée quand j'ai essayé de défendre mon fils. Ils m'ont fait tomber dans les épines. J'ai encore des traces sur les genoux. On m'a tapé à l'épaule aussi. J'ai encore mal au niveau de l'os, à l'intérieur. La plupart du temps, ça va. Mais quand je pense à ma mère, je ne peux pas m'empêcher de pleurer.
À cause des séquelles laissées par les coups qu'elle a reçus, elle ne peut plus travailler. Sans revenu, elle doit se contenter des aides alimentaires distribuées pour nourrir ses enfants. Islam Yassine a à peine 18 ans. Il y a 2 ans, lorsqu'elle était encore à Ardamata, elle a été passée à tabac.
Les FSR sont venus chez nous, ils nous ont frappés, ils ont tué 2 de mes grands-parents et ils ont enlevé mon père. J'ai essayé de m'interposer, mais ils m'ont menacé de me prendre avec lui. J'ai dit que je ne partirais pas, alors ils m'ont frappée si fort. Je me suis débattue, mais ils m'ont frappée sans relâche et m'ont laissée pour morte. Je n'étais qu'un cadavre. Je ne pensais pas que j'allais y survivre, c'était tellement violent.
Et quand on lui demande si elle pense à l'avenir et à un retour au Soudan, Islam répond
« J'ai peur. Je n'y retournerai qu'une fois la guerre finie et les criminels partis. Si ça s'améliore, je rentrerai, sinon je n'y retournerai pas. Je n'ai pas fini mes études, alors dans les années à venir, si la situation de mon pays ne s'arrange pas, j'irai ailleurs pour étudier. Je vais vivre dans un endroit tranquille, loin des problèmes et du bruit des armes. C'est tout ce que je demande. »
Les alertes de violence à l'encontre des femmes au Soudan semblent suivre l'évolution géographique des combats, selon les Nations Unies. Ces derniers mois, le conflit s'est déplacé vers l'est du Darfour, autour de la ville d'Al-Fasher.
Reportage signé Nadia Benmafoud. Sous les radars avec Corinne Audouin.
Pas Nous partons dans les prisons d'Europe de l'Est.
Le Conseil de l'Europe dénonce un système de caste entre les détenus.
Oui, la dureté des prisons russes est bien documentée. On entend là des détenus qui se mutinent dans une prison de l'Est de Moscou. Le froid, la torture, l'isolement. Mais les faits que dénonce le comité anti-torture du Conseil de l'Europe sont d'une toute autre nature. Ses membres visitent régulièrement les lieux de détention des 46 pays du Conseil. Dans leur viseur, l'Arménie, l'Azerbaïdjan, la Géorgie, les Pays-Baltes, la Moldavie, la Russie donc, et l'Ukraine. Des ex-républiques soviétiques où perdure un système de hiérarchie entre les détenus, un système qui remonte à la Russie tsariste, avec trois castes, les chefs informels, les détenus ordinaires et les intouchables, stigmatisés, isolés, affectés à des tâches subalternes, victimes d'intimidation et de violence, dénonce le comité. Alors ce type de hiérarchie informelle se retrouve à des degrés divers dans toutes les prisons du monde, mais dans ces prisons-là, on trouve souvent un détenu chef, un smotriashchik, pardon, je ne connais pas la prononciation de ce mot russe, ça veut dire celui qui regarde. Il y a aussi une échelle de sanctions qui peut aller jusqu'à l'assassinat. Alors le comité anti-torture préconise la fin des grands dortoirs qui augmentent le risque d'intimidation et de violence et des mesures pour protéger les détenus vulnérables.
Après le tremblement de terre qui a frappé la Birmanie le 28 mars dernier, les Birmans vivent avec la peur au ventre, la peur de nouvelles répliques.
Oui, ce séisme de magnitude 7,7 a tué plus de 3700 personnes. 60 000 sinistrés vivent encore dans des camps de fortune. Et c'est dans ce contexte qu'un jeune TikToker birman de 21 ans a lancé une rumeur dévastatrice. Il y a 15 jours, Joe Moete prédit un nouveau séisme très fort dans les jours à venir. Vidéo vue plus de 3 millions de fois le jour de sa diffusion. Beaucoup d'habitants ont passé la nuit dans la rue par peur de voir leur maison leur tomber sur la tête. Le jeune homme, fan d'astrologie et de divination, vient d'être arrêté. On rappelle qu'il est impossible de prédire la localisation, la date exacte et l'intensité d'un séisme. Le gouvernement militaire birman prévient, tout propagateur de fausses nouvelles sera puni.
Ça fait peur. Hein.
Un petit peu, ouais.
Et ça, c'est le cri du kangourou, figurez-vous. On apprend qu'il avait en Australie un ancêtre beaucoup plus gros.
Et le Prothemnodon, c'est son petit nom, vivait il y a 5 millions d'années. Il pesait 170 kilos, deux fois le poids des plus gros kangourous. Je vous laisse imaginer la bête. Alors, des chercheurs australiens qui, eux, contrairement à nous, connaissaient son existence, ont reconstitué ses déplacements en analysant des substances chimiques sur les dents fossilisées. C'est l'ancêtre des balises GPS, dit l'un des scientifiques. On peut savoir ce qu'ils ont mangé, où ils sont allés et comment ils sont morts. Et conclusion, eh bien, ces herbivores vivaient dans une forêt tropicale verdoyante, une sorte de paradis des kangourous. Mais le climat est devenu de plus en plus sec et le Prothemnodon n'a pas su s'adapter en allant plus loin pour trouver à manger. Il a disparu il y a 40 000 ans, comme quoi la sédentarité, parfois Christelle, ça n'est pas mauvais que pour les humains.
Merci Corinne, vous avez quand même le droit de rester sédentaire en studio. Quelques minutes pour écouter avec nous Cannes. Ça veut dire communisme, anarchisme et nihilisme. Cannes, tout un programme venu à l'époque d'Allemagne de l'Ouest. Nous sommes en 1972. Vitamine C. vitamine C du groupe Can. Le Monde à 18h50.
How dare you?
World has changed.
Christelle Rebière. Le 18-20.
Focus ce soir avec vous, Claude Guibal, sur l'Ukraine après la nuit de bombardement sur Kiev et des discussions de paix dans l'impasse. Point épidermique, la Crimée.
Oui, la Crimée qui fait partie des territoires que Moscou pourrait récupérer selon le plan prévu par Donald Trump. Et ça, c'est un non catégorique pour l'Ukraine. La Crimée, c'est notre territoire, point final. C'est ainsi que Volodymyr Zelensky a réagi au plan de Donald Trump, un refus qui a fait littéralement dégoupiller le président américain, qu'il a accusé de tenir des propos incendiaires et de vouloir prolonger délibérément des tueries. Donald Trump est à un niveau de fureur maximum qui rappelle son face-à-face avec Volodymyr Zelensky à la Maison-Blanche.
Car la ligne rouge, elle est là, c'est bien la Crimée.
Oui, parce que ça, les Ukrainiens, vous le répètent sans arrêt. Pour eux, la guerre, elle n'a pas du tout commencé il y a 3 ans. Elle a commencé en février 2014. La révolution pro-européenne de Maïdan, à ce moment-là, chasse du pouvoir le président ukrainien pro-russe Yanukovych. Vladimir Poutine est foudrage et 4 jours plus tard, des hommes masqués, vêtus d'uniformes sans insigne visible, s'emparent de plusieurs lieux stratégiques en Crimée. Et ces petits hommes verts, hein, on les surnomme comme ça depuis, ce sont en fait des soldats russes qui prennent le contrôle de toute la péninsule qui est annexée. C'est un mois plus tard, après un simulacre de référendum, c'est un véritable traumatisme pour les Ukrainiens. On ne va pas refaire ici, Christelle, l'histoire de la Crimée, la déportation de sa minorité tatare par les soviétiques, les exactions, mais la Crimée, pour les Ukrainiens, c'est vraiment le symbole de sa souveraineté, de la diversité ethnique qui fait partie de l'ossature de l'identité ukrainienne.
Mais Donald Trump, lui, ne voit vraiment pas où est le problème.
Oui, parce qu'en fait, Donald Trump, il voit les pays, il voit les territoires comme des actifs, des actifs bancaires qu'on acquiert et dont on se sépare sans affect. Et lui, en fait, il dit qu'il n'y a même pas débat, qu'il faut passer à autre chose. Il dit même aux Ukrainiens que si la Crimée était si importante, eh bien, ils n'avaient qu'à se battre pour elle il y a 10 ans. Et au fond, en silence, beaucoup d'Ukrainiens savent qu'il y a peu de chances qu'ils récupèrent un jour ce territoire. Mais aucun homme politique ukrainien, et encore moins Volodymyr Zelensky, ne briserait ce tabou. Renoncer à la Crimée serait suicidaire et ça aurait des conséquences terribles sur une Ukraine déjà laminée par 3 ans de conflits intenses, d'où l'obsession de Kiev pour la Crimée, une priorité où les opérations de l'armée se sont concentrées il y a 2 ans pour chasser la marine russe, pour récupérer l'accès à la mer Noire, pour permettre notamment l'exportation des céréales.
Et il n'y a pas que les Ukrainiens pour qui la Crimée est une ligne rouge.
Oui, notamment les Européens qui ne veulent surtout pas d'un tel précédent parce que c'est quand même là-dessus, sur la Crimée, que s'est bâtie leur position depuis 10 ans. C'est le ciment de leur soutien à l'Ukraine. Et remarquez, c'était aussi celui des Américains, y compris lors du premier mandat de Donald Trump. Son chef de la diplomatie d'alors, Mike Pompeo, disait que l'annexion de la Crimée, eh bien, c'était une menace pour le droit international. Oui, mais ça, c'était en 2018 et on est en 2025 et le droit international en 2025, cela ne veut plus dire grand-chose pour une administration qui veut annexer le Canada, le Groenland ou le Panama. Il n'y a pas vraiment aucun problème.
Merci Claude.
France Inter, le 18-20.
La tech la première. Et cette semaine, Stéphane, vous levez le voile sur une partie des algorithmes qui régissent nos vies.
Oui, ces algorithmes omniprésents, omnipotents, qui dictent nos vies de plus en plus, de nos achats sur Amazon à Parcoursup, ou de la CAF à l'attribution des places en crèche, ces algorithmes sont partout. Et pourtant, on les connaît mal, trop mal. Heureusement, un livre nous plonge dans la vie de ces algos, leurs petits secrets et leurs ressorts politiques, tout sauf neutres. Les algorithmes contre la société, c'est un livre militant de l'essayiste Hubert Guillot pour qu'on reprenne le contrôle de ces algorithmes.
Les algorithmes, ils sont partout, dans la banque, dans l'assurance, dans les systèmes sociaux, pour calculer vos impôts, la manière dont on relie en fait les demandeurs d'emploi à des offres. Bref, donc aujourd'hui, dans tous les éléments du quotidien, il y a des algorithmes d'appariement et de classement qui ont des impacts très très concrets sur chacun d'entre nous.
Ils sont partout et le problème c'est que pour notre auteur, ils ne sont ni justes, ni précis, ni efficaces.
Alors on va prendre des exemples, on commence avec Parcoursup.
Oui, l'auteur dissèque le plus connu de nos algorithmes, accusé de trancher aveuglément au centième de décimale près entre les profils des candidats.
Pour moi, le principal défaut de l'algorithme de Parcoursup, c'est qu'il génère des distinctions qui n'existent pas en fait. Pour distinguer les élèves les uns des autres, on va calculer et apprécier leur moyenne jusqu'à 0,001 point derrière la virgule. Mais vous comprenez bien qu'entre un élève qui a 12,051 et 12,052, en fait, académiquement, il n'y a pas de différence entre ces élèves. Or, l'un des deux va pouvoir peut-être être pris par une formation et pas l'autre. Alors, c'est très facile de distinguer un élève qui a 19 de moyenne d'un autre qui a 8, bien sûr. Mais en fait, la plupart des élèves sont assez semblables. Et distinguer tous ceux qui ont 12,050 quelque chose devient une sorte d'aléatoire et de discrimination un petit peu automatisée. Au final, vous candidatez pour une formation d'ingénieur et c'est la différence sur une note de sport dans votre moyenne qui va faire la différence entre deux élèves, entre un qui pourra être pris et l'autre qui pourra ne pas être pris.
Pour Hubert Guillot, c'est la motivation qui devrait faire la différence, mais dans Parcoursup, la motivation, c'est une simple variable d'ajustement.
D'abord parce que les élèves ne font pas de choix classés vis-à-vis des formations qu'ils peuvent avoir, mais surtout que leur motivation n'entre pas vraiment dans le calcul, elle n'est là que pour distinguer deux élèves qui auraient le même score entre eux.
Autre exemple, Stéphane, qui concerne beaucoup de Français.
La CAF, la Caisse d'allocation familiale.
La plupart des services publics, comme la CAF, ont mis en place des scores de risque de fraude pour essayer de savoir s'il y avait un risque concernant les versements que la CAF pouvait faire ou les défauts que ces gens pourraient avoir, en fait. C'est-à-dire, on attribue une note selon un risque potentiel aux gens, et cette note va avoir une incidence très concrète sur la manière dont ils sont contrôlés, surveillés, classés par les systèmes sociaux. Le problème de l'algorithme, c'est que il va avoir tendance à cibler plus particulièrement certaines formes de population plutôt que d'autres, et notamment, par exemple, les femmes seules, avec enfants, plutôt que d'autres bénéficiaires. On voit bien qu'il y a là, en fait, un problème quelque part de justice sociale, en fait.
Autre problème, si vous vous connectez plus de 5 fois par mois sur votre espace CAF, ce sera considéré comme un comportement à risque qui fera monter votre score de risque, selon Hubert Guillot.
Et donc, les premières victimes de ces algorithmes seraient les plus démunies ?
Eh oui, les plus pauvres et les plus éloignés de l'information.
Tous ces algorithmes y génèrent, en fait, des discriminations sociales, ils les amplifient, ils s'en prennent toujours ou le plus souvent aux plus démunis, aux plus pauvres, qui sont en fait plus surveillés, plus calculés que d'autres. Il y a une sociologue qui parle de lumpenscoretariat, c'est-à-dire le petit peuple du score. Ce sont les gens qui sont les plus mal notés par ces systèmes qui vont avoir tendance à être encore plus mal notés dans des formes de boucles un peu infernales.
Lumpenscoretariat, le petit peuple du score.
Et comment fait-on pour sortir de cette boucle infernale ?
Alors, nous ne sommes pas complètement démunis. Nous avons déjà des organismes de régulation, la CNIL ou le Défenseur des droits, et des législations comme le RGPD. Mais ces dispositifs ne sont pas suffisants face à la multiplication de ces lieux de calcul. Et la priorité, ce n'est pas forcément d'en créer d'autres pour faire face. La priorité, c'est de changer de méthode, de mener une révolution culturelle pour faire rentrer les calculés, ceux qui subissent les répercussions de ces algorithmes, dans la fabrication même de ces algorithmes.
L'enjeu n'est peut-être pas qu'on ait demain une agence spécialisée pour regarder tous les calculs, une grande agence qui va venir contrôler tous les algorithmes, et il y en a trop, elle n'y arrivera pas, mais que dans les grands calculs du social, en fait, dans tous les systèmes qui ont un fort impact social, on fasse entrer les premiers concernés, c'est-à-dire les calculés. Parce que ce sont eux les mieux à même, en fait, de pouvoir rendre les systèmes responsables, de pouvoir montrer les limites du calcul.
Dans le cas de Parcoursup, les représentants des étudiants et des profs pourraient peser sur la façon dont les algorithmes sont mis au point.
Et dans son livre, Hubert Guillot prend l'exemple d'un pays étranger qui fait ça très bien.
Oui, et il désigne tellement Amazon, McDo, Google ou Meta dans son essai qu'on n'aurait pas imaginé une seconde qu'il trouve aux États-Unis l'exemple à suivre en matière de contrôle des algorithmes.
Aux États-Unis, par exemple, cette discussion entre la médecine et la société existe depuis 50 ans sur la question de l'attribution des greffes de reins et des systèmes de dialyse, où vous avez en fait les usagers qui discutent avec les médecins, qui remettent en cause les évolutions de la science et qui permettent en fait de faire avancer l'efficacité et la responsabilité des calculs.
Notre auteur en appelle à une forme de dialogue social dans la détermination des algorithmes avec des utilisateurs qui introduisent un rapport de force. Sinon, le risque devant nous est celui d'un autoritarisme numérique. Je le cite, « L'algorithmisation du monde est venue outiller l'hypercapitalisme, offrant au néolibéralisme une nouvelle ingénierie politique » orienté vers des profits à court terme. C'est la conclusion de ce petit pamphlet très politique.
Les algorithmes contre la société aux éditions La Fabrique. Merci Stéphane.